France Info. Les informés. Julien Lenglet.
En plein Jeux Olympiques, les parlementaires se sont offerts un marathon politique. 5 jours de débat entre l'Assemblée et le Sénat. Et à l'arrivée, les deux chambres ont accouché d'un compromis et adopté tard ce dimanche soir le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants, l'extension du pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel doit rendre son avis début août. Nos informés ont déjà le leur d'avis sur le sujet. Nous allons bien évidemment leur demander. Nous y consacrerons une grande partie de l'émission. À suivre aussi le cap des 40 millions de primo-vaccinés franchis, ce dont s'est félicité le chef de l'État en voyage officiel en Polynésie avec une grande première, la visite d'un chef d'État aux îles Marquises. Un accueil assez incroyable. Je ne vais pas faire le haka pour nos informés du jour, mais le cœur y est. Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir.
Fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonsoir aussi à vous, Jeannick Halimi.
Bonsoir Julien.
Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Et puis Éric Delannoy, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste et président fondateur du cabinet Tenzing. Les informés, c'est parti. Le pass sanitaire et une passe d'armes au Parlement. Il aura donc fallu 5 jours et plus de 60 heures d'échanges pour que députés et sénateurs trouvent un compromis et permettent l'adoption tard ce dimanche soir au Palais Bourbon du projet de loi qui prévoit donc l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. 156 voix pour à l'arrivée, 60 contre, 14 abstentions. Un véritable marathon donc à l'issue duquel le ministre de la Santé s'est félicité, non sans ironie, de l'unité nationale retrouvée. Le chef de file des députés insoumis, Jean-Luc Mélenchon, venait de défendre en vain une ultime motion de rejet dénonçant les atteintes aux libertés que constitue selon lui la mise en place de ce pass.
Le pass sanitaire n'aura aucun effet sur la santé des Français. Au contraire, on doit craindre qu'il puisse la menacer. Avec la gestion de la crise sanitaire dans le secret du Conseil de défense, en pleine crise collective, notre pays est gouverné par une personne seule, le président, dont il faut ensuite changer la moitié des décisions parce qu'elles sont ingérables. Le pass sanitaire, c'est le pass autoritaire. Le pass sanitaire, c'est la discrimination sociale assumée, comme le montre la carte des vaccinations.
Voilà Jean-Luc Mélenchon. Et pour donner le ton des échanges dans l'hémicycle, voici le député MoDem Jean-Louis Bourlange qui a interpellé directement Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur Mélenchon, j'ai beaucoup de respect pour l'insoumission. J'ai beaucoup de respect pour l'anarchie. Mais je ne suis pas anarchiste et nous ne devons pas l'être parce que nous savons que le monde n'est pas composé de Dieu au pluriel. Il est composé d'hommes avec leurs faiblesses. Et nous sommes confrontés à des choses que vous n'acceptez pas mais qui sont essentielles. L'esprit de responsabilité est supérieur, monsieur Mélenchon, à l'esprit d'insoumission.
Voilà le député MoDem Jean-Louis Bourlange. Est-ce qu'il a manqué de responsabilité, Jean-Luc Mélenchon, comme le dit Jean-Louis Bourlange, Jeannick Halimi?
Écoutez, c'est de la responsabilité d'un leader politique, notamment comme celui de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, que de avoir le droit, peut-être même le devoir, de contester, de mettre en question telle ou telle décision prise par l'exécutif. Et ma foi, le même qui crie toujours à l'autoritarisme, voire à pire, de l'État ou de la Macronie, est l'exemple contraire, justement, que la parole est libre, le droit de l'opposition est libre. Ça, c'est une chose. Il est évidemment fondé à critiquer la gestion de la crise sanitaire menée par le gouvernement, notamment à ses débuts. On ne va pas revenir sur les erreurs qui ont été soulignées pas seulement par M. Mélenchon, par d'autres forces politiques et également par des autorités dites indépendantes de l'État. Et il est totalement dans son rôle et de ce point de vue-là, il a raison. En revanche, il sait avoir un esprit de responsabilité. En revanche, là où on peut estimer, comme M. Bourlange, qu'il ne va pas au bout de son devoir de responsabilité en tant que même que citoyen, c'est que quand il dit que le pass sanitaire non seulement ne servira à rien, mais même aggravera la situation, moi je ne fais que répéter pour le coup ce que disent ceux qui sont mieux informés que moi, et ô combien mieux informés que moi, que sont pardonnez-moi, tous les médecins, les infectiologues, et puis l'expérience quand même de plusieurs mois de cette modalité-là de lutte contre le Covid, il me semble qu'au contraire, même si on peut contester telle ou telle modalité d'application, et peut-être même son efficience, mais son principe même, dire qu'il est contre-productif et même dangereux pour la santé des Français, je crois que là, M. Mélenchon a totalement tort, et là où il a totalement tort aussi, c'est qu'il n'a peut-être pas compris ou il ne veut pas comprendre que le Covid, c'est un ennemi. Moi, un médecin me disait, c'est un robot qui s'attaque au corps de l'homme parce qu'il a besoin du corps de l'homme pour prospérer. Et plus on prendra du retard dans la lutte contre le Covid, plus on lui laisse la chance à ce virus de prospérer et de générer de nouveaux variants contre lesquels ce sera très compliqué de lutter. Donc oui, de ce point de vue-là, M. Mélenchon manque, on va dire en tout cas, de discernement, ce qui est très étonnant de sa part.
Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Michel Taube lève la main, Éric Delannoy aussi a très envie de parler, mais on va vous entendre, ne vous inquiétez pas, c'est juste l'heure du fil info. Il est 20h10 et on retrouve Emmanuel Langlois.
France Info, les informés. Julien Langlais.
Avec ce soir, Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing, Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Nous parlons de ce projet de loi sur l'obligation vaccinale des soignants, l'extension du pass sanitaire, adopté tard ce dimanche soir à l'Assemblée nationale. 156 voix pour, 60 contre et 14 abstentions. On a écouté un extrait des débats avec cet échange un peu musclé entre Jean-Luc Mélenchon et Jean-Louis Bourlange, le chef de file des Insoumis, hein, qui a assuré que ce sera un honneur de désobéir au pass sanitaire. Michel Taube, vous souhaitiez réagir?
Il est vrai qu'Emmanuel Macron nous a, puisqu'on est en période de Jeux Olympiques, Emmanuel Macron nous impose un sprint là où il aurait mieux valu qu'on ait à 800 mètres ou à 1500 mètres pour bien se préparer au pass sanitaire. Et c'est vrai que lorsque le 12 juillet il s'est adressé aux Français en disant « il faut se vacciner au plus vite et pour vous aider à vous vacciner, je vais vous imposer un pass sanitaire », je me suis dit « il était temps, mais n'était-ce pas déjà trop tard ?» Et on se retrouve encore une fois, et c'est la énième fois, j'ai envie de dire avec l'exécutif actuel, à devoir courir après un Covid qui va beaucoup plus vite que nous. Pourquoi je dis cela ? Parce que le président de la République en Polynésie se félicite qu'il y ait 40 millions de primo-vaccinés. Mais ça n'est pas assez. Nous sommes très en retard. La France est parmi, si on compare à l'Italie, à l'Espagne, à la Grande-Bretagne, la France est très en retard. Nous sommes très très loin de l'immunité collective.
Et donc c'est parce que dans les États-Unis, hein, quand même.
Et c'est parce que nous avons du retard que le chef de l'État a tenté une sorte de non pas de va-tout, mais quand même de pari, en mettant très fortement la pression sur ses concitoyens. Et c'est comme ça que je comprends les envolées lyriques d'un Jean-Luc Mélenchon. Oui, on nous impose effectivement une mesure qui est certainement nécessaire d'un point de vue sanitaire, mais dans des conditions et avec un manque d'efficacité au niveau de l'intendance qui risque d'être contre-productif. Le deuxième point, ce qui moi me désole et m'étonne beaucoup, c'est que samedi, place du Trocadéro, Florian Philippot, les patriotes, entre guillemets, d'extrême droite ou de droite très très extrême, disait à peu près la même chose que Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche. Et on se retrouve dans un paradoxe qui est quand même incroyable, que ce sont les extrêmes qui défendent soi-disant la liberté, alors que le pass sanitaire et encore plus la vaccination ne sont que des mesures de santé publique pour nous protéger et tout simplement dire à nos concitoyens, vous n'avez pas le droit de contaminer les autres. Ce n'est pas une liberté, ça. C'est une irresponsabilité civique. Et donc, on est dans un drôle de paradoxe où les extrêmes récupèrent le discours sur la liberté qu'elle comble et qu'elle symptôme d'une société démocratique française quand même bien malade.
Éric Delannoy.
Non, mais enfin, moi, je suis toujours étonné de. C'est facile de commenter et de regarder un petit peu les errements ou les soi-disant errements des gouvernements. C'est pas ça que retient dans l'histoire. Enfin, moi, le problème de l'irresponsabilité de Jean-Luc Mélenchon, c'est non pas qu'il critique, il est dans son rôle d'opposant, je suis assez d'accord, c'est qu'il ne propose rien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui ont passé leur temps à être contre tout et à faire en sorte de se contredire en permanence pour pouvoir être contre tout, mais ne propose rien. L'irresponsabilité dans une situation comme celle-là, elle est là. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé au Sénat, où il n'y a pas la France insoumise, où il n'y a pas le Front National, le RN ou le Rassemblement National, bah finalement, ça a été un vrai débat démocratique. On a une loi, alors quand il dit que la moitié de ce qu'a proposé Emmanuel Macron a été remis en cause par le Sénat, mais c'est ça le débat démocratique. Il y a un projet de loi qui correspond à un sprint et qui correspond à une urgence, parce que personne ne peut dire qu'il n'y a pas d'urgence. Et bien finalement, cette urgence-là, elle a fait l'objet d'un débat démocratique avec des gens responsables au Sénat qui ont amélioré le texte. Et c'est ça qu'on aimerait, on aurait bien aimé voir marge, depuis des... Même à la marge, mais quand même à améliorer le texte. Non, pas à la marge. Quand on ne supprime les licenciements des collaborateurs, ce n'est pas à la marge. Quand on décide d'enlever l'obligation vaccinale pour les moins enfin, pour les 12-15 ans, ce n'est pas la marge. Ce n'est pas la marge du tout, en fait. Donc, je pense qu'au contraire, c'est le signe. En revanche, moi, ce qui me dérange, c'est que on a les moyens de regarder le recul qu'il y a par rapport à d'autres pays. Le Royaume-Uni, ils ont un mois d'avance sur nous sur ces sujets-là. Sauf qu'on s'aperçoit qu'au Royaume-Uni, les contaminations explosent et les entrées à l'hôpital n'explosent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un taux vaccinal supérieur au nôtre.
Ils ont un mois d'avance. Excusez-moi, ils ont des mois d'avance parce que eux, ils ont un vaccin.
Non, mais je parle du variant Delta, de la gestion du variant Delta.
Ils sont maîtres de leur politique vaccinale.
Oui, mais justement, la raison pour laquelle il fallait
contrairement à l'Union européenne,
la raison pour laquelle il fallait un sprint, c'était que justement on a une couverture vaccinale qui n'est pas suffisante et il fallait mettre en place cette couverture vaccinale. Et là où Emmanuel Macron prouve qu'il avait raison dans ses décisions, c'est qu'en 3 jours, il y a 4 millions de personnes qui se sont vaccinées, contre 150 000 personnes qui ont défilé.
Mais malheureusement, ça risque de ne pas être suffisant pour éviter l'engorgement des hôpitaux à la fin du mois d'août.
Il faut continuer à aller vite.
Jeannick
Ademir. Je sais, pour connaître un peu Jean-Luc Mélenchon, qu'il aime beaucoup la philosophie et la spéculation non pas financière mais des idées intellectuelles. Et moi je lui conseillerais en toute humilité de lire Emmanuel, mais pas Macron, mais Emmanuel Lévinas, vous voyez, le philosophe qui parle de responsabilité et qui dit être responsable, ce n'est pas être responsable seulement de soi mais d'autrui, être responsable d'autrui et notamment des plus fragiles. Et lorsqu'on est Jean-Luc Mélenchon, patron de la France Insoumise, je suis sûre qu'on est évidemment sensible à l'écoute et plus qu'à l'écoute de ces populations qui ne demandent qu'à être vaccinées. Alors attention, hein, Jean-Luc Mélenchon n'est pas contre la vaccination,
non,
que les choses soient claires. Voilà. Mais quand même, dans la lutte contre, et dans l'acuité de la lutte contre le virus, qu'il entende quand même toutes les mesures qui peuvent être prises et qui doivent être prises pour lutter contre le Covid, pour protéger notamment les plus fragiles qui sont les plus exposés pour X raisons, les plus fragiles économiquement, les plus fragiles socialement, les plus fragiles en termes de santé. Je sais que la France Insoumise est extrêmement à l'écoute de ces gens-là. Et rien que pour ces gens-là, pour monsieur Mélenchon pourrait être en tout cas plus ouvert à toutes les mesures, même imparfaites, destinées à lutter contre le Covid.
Michel Taube.
Ce point, il est absolument capital. Mais j'aimerais être plus concret, justement. En Haute-Corse, actuellement, ça flambe. Mais il commence à y avoir une pression hospitalière en Haute-Corse, parce que notamment, beaucoup de personnes âgées de plus de 60 ans sont atteints par le Covid-Delta. Et à ce jour, il n'y a toujours pas, au niveau de l'État français, une politique sanitaire de lutte contre la Covid centrée, par exemple, sur les personnes en surpoids. Or, on sait très bien que c'est une des populations les plus à risque exposées à la contamination au virus. Et ce que l'on vit aujourd'hui, mais on l'a vécu l'année dernière, lorsqu'il y a eu les retards sur le masque, lorsqu'il y a eu les différents confinements, c'est que effectivement, on n'arrive pas actuellement. Trop de Français de plus de 65 ans et de personnes vulnérables, c'est-à-dire ayant plusieurs pathologies, ne sont pas suffisamment vaccinés. Et arrivera-t-on à rattraper ce retard d'ici la fin août ? Je crains que non. Et d'après ce que disent beaucoup d'épidémiologistes et de médecins, il commence à y avoir, j'ai appris là tout à l'heure qu'à La Rochelle, il commence à déprogrammer certaines opérations hors Covid et à envisager des transferts de malades vers d'autres hôpitaux. Parce que justement, la sonnette d'alarme qu'a lancé le chef de l'État le 12 juillet est peut-être arrivé trop tard, comme souvent. Et donc, du coup, après, on nous impose une pression maximale, comme ça a été le cas le 12 mars 2020, lorsque le Premier ministre a dit « Dans 4 heures, vous fermez tout ».
On ne va pas passer son temps à dire « C'est trop tard ».
L'anticipation.
Sur un Delta,
le gouvernement est au courant depuis fin mai qu'il y a le variant Delta.
Michel Taube, des fois, on dit « Mieux vaut tard que jamais » aussi. On va poursuivre ce débat avec nos informés Michel Taube, Jannick Halimi, Éric Delannoy, mais d'abord, c'est le Fil Info, 20h20, Emmanuel Langlois.
France Info, les informés. Julien Langlais.
Avec ce soir Éric Delannoy, Jannick Halimi, Michel Taube, on continue d'évoquer ce vote après 5 jours, 60 heures d'échange entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Vote de ce projet de loi sur l'obligation vaccinale des soignants et l'extension du pass sanitaire. Vote qui ne va pas éteindre la contestation pour autant. On l'a encore vu samedi dernier, peut-être encore samedi prochain. On voit d'ailleurs des syndicats qui sont en train de monter au créneau contre les éventuelles sanctions aux salariés non vaccinés. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'issue du vote, a pourtant tenté de donner des garanties encore sur ce pass sanitaire. Il est temporaire, a martelé Olivier Véran à l'Assemblée.
Je ne reviens pas sur la philosophie du pass. Ça a été débattu, redébattu et redébattu jour et nuit tout au long de la semaine. Et vous savez que nous en ferons un usage parcimonieux dans la durée la plus courte possible, c'est-à-dire qu'à la minute où nous pourrons nous passer du pass sanitaire, comme à la minute où nous avons pu nous passer des masques en extérieur, nous prendrons la décision de lever toutes ces contraintes. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre, qui est la date consensuelle entre les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons.
Ce n'est pas si loin, le 15 novembre, comme le dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, Éric Delannoy.
Oui, non, mais ça, d'ailleurs, on ne l'évoque pas assez. C'est-à-dire qu'en gros, le 15 novembre, c'est dans 3 mois. Enfin, en gros, 3-4 mois. Et de dire que, en fait, on parle d'une dictature pour les plus radicaux d'entre eux, où on parle de qu'est-ce que ça dit de notre société. Je fais référence à un long article d'un éminent représentant de la droite. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ce pass sanitaire ? Rien, en fait. Ça dit juste qu'il y a un gouvernement qui cherche à trouver la moins mauvaise des solutions pour aller vite dans l'éradication de ce virus. Ça ne dit rien à notre société parce qu'on a oublié que c'était une mesure temporaire dont plus personne ne se souviendra dans 10 ans parce qu'on aura réussi à l'éradiquer. C'est pas ça qu'on retiendra. Ce qu'on retiendra, c'est qu'on a réussi à lutter contre le variant, que finalement le taux de mortalité en France, il aura été entre et malheureusement c'est toujours trop relativement dans des zones assez j'aime pas le terme raisonnable, mais en tout cas limité, on va dire, par rapport au Brésil, par rapport au Royaume-Uni même. On retiendra qu'il y a eu un soutien aux entreprises qui a permis de faire une reprise qui aujourd'hui est là, s'annonce là. Bien sûr, on avait dit que c'était pas possible, que ça allait pas être le cas. On nous a chipoté sur les chiffres de l'INSEE du premier trimestre. Il se trouve que la croissance est là. Donc c'est ça qu'on va retenir de l'histoire. C'est pas ces mesures temporaires qui vont durer 3 mois et qui ne disent rien d'autre de notre société que la volonté de pouvoir aller vite pour éradiquer, en préservant la liberté de ceux qui ont fait l'effort de se vacciner.
Jannick Halimi.
Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le gouvernement aurait voulu que cet état d'urgence sanitaire soit poursuivi, prolongé au moins jusqu'au 31 décembre. Bien, les parlementaires n'en ont pas voulu. Et voilà, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et je suis d'accord pour dire que la lutte contre le Covid est quelque chose de prioritaire. Mais d'un autre côté...
Je fais juste une parenthèse, mais comme quoi les parlementaires ont leur mot à dire.
Non, mais voilà.
Contrairement à ce qu'on peut parfois entendre.
Vous avez raison.
Ce n'est pas une chambre d'enregistrement.
Voilà, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Le côté jupitérien, autoritaire, dictatorial de l'exécutif aujourd'hui, du président de la République, de la 5e, et d'Emmanuel Macron en l'occurrence, quand même cette vision des choses demande à être évidemment amodiée et nuancée, ô combien. Mais d'un autre côté, c'est normal. Encore une fois, moi je suis pour qu'on mette tous les moyens pour lutter contre le Covid, c'est une chose. Mais c'est normal aussi dans la démocratie, dans notre démocratie, d'établir des limites, de tirer les sonnettes d'alarme, de mettre en place des vigiles. On en a, hein, avec bien sûr le Parlement, avec les autorités comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Défenseure des droits qui a tiré la sonnette d'alarme.
Saisi par le gouvernement.
Le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement, saisi par les sénateurs. Ouais. est saisi par un groupe qui vient de se constituer à l'Assemblée nationale entre toute une partie de la gauche, dont la France insoumise, le PS et le PC. Mais vous avez raison, je crois que c'est le Premier ministre qui l'a
saisi.
C'est normal parce que, encore une fois, n'oublions pas que le projet de l'état, pardonnez-moi, l'état d'urgence qui avait été mis en place est voté de façon temporaire contre le terrorisme. N'oublions pas que dans différentes lois, pour le coup normales, certaines des mesures de disposition dans cet état d'urgence contre le terrorisme ont été reprises, donc de limitation ou en tout cas de contrôle renforcé des citoyens, de limitation de certaines libertés au regard bien sûr de l'impératif de la lutte contre le terrorisme, ont été reprises certaines d'entre elles dans des projets de loi ordinaires ou organiques mais ordinaires. Donc c'est bien de rester vigilant, mais que ça n'entrave pas, bien évidemment, l'objectif qui doit être le nôtre et qui est le nôtre, qui est de terrasser le Covid.
Michel
cet après-midi, le Conseil d'État a rendu une décision. Les acteurs de la culture avaient saisi le Conseil d'État pour demander un report de la mise en place du pass sanitaire. Le Conseil d'État leur a donné tort. Il a donné tort au gouvernement.
Non. Il a validé l'extension du pass sanitaire aux lieux de culture et de loisirs accueillant 50 personnes et plus. Cette extension qui est effective depuis le 21 juillet. Donc il a donné raison au gouvernement.
C'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais c'est peut-être ce que je n'ai pas dit.
Merci
pour votre vigilance. Mais j'avais ma source et je vous prie de m'en excuser. Moi, j'ai donné une autre décision très importante. Le 27 avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision de justice pour dire que l'obligation vaccinale imposée aux enfants était parfaitement conforme à la charte, à la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés. Je veux dire par là, encore une fois, toutes ces questions, même si le Parlement, même si les différentes instances de vigilance que vous avez citées doivent jouer leur rôle, encore une fois, toutes ces mesures ne sont pas une question de liberté comme le disent les extrêmes. Elles sont avant tout une question de santé publique. Il y a une course de vitesse contre un variant qui est de plus en plus rapide. Il y a d'ailleurs, je dois le dire, en Indonésie, au Vietnam, au Cambodge, manifestement peut-être de nouvelles formes de ce variant Delta. On parle maintenant d'un Delta Plus qui serait en train de circuler. Donc on est malheureusement dans une course de vitesse extrêmement rapide qui oblige à prendre des mesures très très rapides et qui ne sont encore une fois pas une question de liberté, qui sont une question de santé publique et de vie ou de mort de nos concitoyens.
Michel Taube, Yannick Halimi, Éric Delannoy sont nos informés ce soir sur France Info.
France Info. Les informés. Julien Lenglet.
Avec Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. On continue d'évoquer l'adoption de ce projet de loi sur l'obligation vaccinale des soignants, l'extension du pass sanitaire qui, on l'a vu ce week-end, suscite quelques tensions sur le terrain. Alors, est-ce que cette nouvelle journée de mobilisation samedi dernier dans plusieurs villes de France a poussé les députés et sénateurs à trouver un terrain d'entente? On ne sait pas. Toujours est-il que le président de la République, lui, ne l'entend pas de cette oreille. En déplacement en Polynésie et lors de sa première étape à Papeete, Emmanuel Macron a répondu à celles et ceux qui sont contre la vaccination et qui étaient nombreux dans les manifestations.
Si on aime sa propre liberté pour soi et si on respecte les autres, le seul geste à faire, c'est se faire vacciner. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner » Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et au nom de votre liberté, après-demain, vous allez peut-être avoir une forme grave, vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge. Et peut-être qu'ils devront renoncer à prendre quelqu'un d'autre, déprogrammer une opération au nom de votre liberté. Ça n'est pas ça la liberté. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. Une société ne tient que quand la liberté de chacun est respectueuse de l'autre. Et donc elle repose sur des droits et des devoirs.
Emmanuel Macron à Tahiti, est-ce qu'il a eu raison de faire la leçon, Emmanuel Macron?
Professeur
qui
Macron.
Qui veut répondre, Michel Taube.
Professeur de morale, Emmanuel Macron. Bah, moi, pour avoir beaucoup critiqué le chef de l'État depuis un an et demi, je ne suis que d'accord avec lui. Parce qu'encore une fois, là, si on... suit les prévisions épidémiologiques, notamment de l'Institut Pasteur, qui a envisagé plusieurs hypothèses, et notamment une ou deux très inquiétantes. Encore une fois, ce qui se joue là, c'est pourquoi on en est là ? Pourquoi cette pression maximale ? D'abord parce que, comme je le disais plus tôt, nous avons pris du retard, mais aussi parce que pour anticiper l'avenir, tout est fait pour essayer d'éviter un nouveau confinement. L'appel massif à se vacciner, c'est pour tenter d'éviter un nouveau confinement en septembre ou en octobre. C'est ça l'enjeu qui se joue aujourd'hui. Donc tous ceux qui crient au loup et qui disent au nom de leur liberté individuelle, on doit avoir la liberté de ne pas utiliser le pass sanitaire et même pour certains de ne pas se vacciner, eh ben, c'est mettre en danger autrui et donc la société avec un risque de mesures beaucoup plus draconiennes qui viendraient à la rentrée.
C'est Éric Delannoy.
Oui, enfin, moi, je suis assez d'accord avec ça, même si enfin, on a beaucoup reproché au gouvernement de jouer sur la peur. Enfin, je me souviens d'une intervention d'Emmanuel Macron qui, il y a quelques mois, parlait de 400 000 contaminations si on n'allait pas faire ceci, si on n'allait pas faire cela. Là, on est sur le rappel d'un certain nombre de principes clés, d'un principe de principe démocratique sur le sens de la liberté en démocratie. Ça fait du bien quand même. Enfin, je veux dire, maintenant, je ne sais pas quelle portée ça va avoir parce que ça a le mérite quand
c'est
même
la question
de la pédagogie. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit on joue sur la peur, les réflexes pavloviens, et dans ce cas-là, tout le monde s'en régale, mais finalement, on ne fait pas avancer les choses. Soit on rappelle un certain nombre de principes qui, d'ailleurs, c'est son rôle en tant que chef de l'État de rappeler des principes de vie démocratique. Et dans ce cas-là, il est dans son rôle. Hein. Donc, on ne peut pas à la fois critiquer quand il manie la peur et puis critiquer quand il essaie de manier la pédagogie. Là, pour le coup, c'est de la pédagogie.
C'est audible, Jeannick Elimi.
Enfin, alors moi, je pense que Emmanuel Macron essaie de viser une catégorie particulière des manifestants. On sait qu'il y a des ultra-droites, des ultra-gauches. Le gouvernement, et on sait qu'une partie des manifestants des samedis précédents sont aussi politisés. C'est pas péjoratif, hein. On a vu...
En l'occurrence, si.
Nicolas, le fait d'être politisé ne l'est pas, je veux dire.
Oui, voilà.
On a vu Nicolas Dupont-Aignan, on a vu surtout Florian Philippot. Bon, il y a des manifestants qui ressortent de ces milieux-là, si je puis dire.
Mais qui tentent quand même un petit peu, on peut le dire aussi, de se refaire une santé politique
bien sûr,
sur le dos de la pandémie.
Évidemment. Non, mais... Bon, sur le dos, en tout cas, ils ont aussi leur propre sincérité, ils ont leur part d'instrumentalisation, je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire par là, pour répondre à ce que disait Emmanuel Macron, il y a aussi dans ces cortèges des gens qui, de bonne foi, dans tous les sens du terme, quand je parle de foi, arguent d'une certaine conscience individuelle, d'une certaine moralité, voire d'une certaine morale, qui fait qu'ils ne veulent pas se faire vacciner ou ils estiment que le pass sanitaire ne contribue pas, ne fait pas partie de leur grille de morale. Et là, Emmanuel Macron veut s'adresser à ces gens-là, qui peuvent être aussi, c'est pour ça que je disais foi, de bonne foi dans tous les sens du terme. On a vu beaucoup de croix parmi les manifestants. Et ces gens-là peuvent être tout à fait, sensibles à cet argument de moralité qui est de dire la responsabilité, c'est aussi la santé des autres. Ce que dit d'ailleurs le pape François, urbi et orbi, en appelant à la vaccination de tous et notamment des pays les plus pauvres. Cela dit, juste pour terminer, pour répondre à votre question, est-ce que ça va continuer ? Il y a quand même une crainte au sein de l'exécutif de voir de se radicaliser et se coaliser certaines oppositions. Et ce qu'ils veulent éviter avec le pass sanitaire, c'est que des commerçants ou des petits entrepreneurs ou des responsables de lieux culturels ne se coalisent avec ces manifestants qui n'ont rien à voir avec eux. Et c'est tout l'exercice compliqué de l'action politique aujourd'hui.
Michel Taube veut réagir, mais on va vous entendre dans un instant. Michel Taube, Jeannick Elimi, Éric Delannoy. Oui, c'est l'heure du fil info, il est 20h40.
France Info, les informés. Julien Langlais.
Avec ce soir, Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing, Jeannick Elimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Très agité ce soir, Michel, qui avait envie de réagir à ce que venait de dire justement Jeannick Elimi sur l'intervention du chef de l'État en rapport justement à ces manifestations qui ont encore eu lieu dans plusieurs villes de France samedi dernier.
Je pense que c'est toujours risqué de donner des leçons de morale en politique. Et c'est vrai que je crains que cela suscite plutôt auprès des sceptiques, voire des adversaires du pass sanitaire, voire du vaccin, un redoublement de leurs efforts pour gagner du terrain. Samedi dernier, au Trocadéro, encore une fois, il y avait beaucoup de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je ne suis pas certain que tous les manifestants savaient qui organisait cette manifestation. En l'occurrence, Florian Philippot et les Patriotes. En tout cas, j'espère qu'ils ne le savaient pas tous. Ouais, et on va voir samedi prochain. Et on va voir samedi prochain si ça continue à monter. Parce que pour l'instant, ça monte. Et d'ailleurs, les contestations du pass sanitaire, on ne les voit pas qu'en France. Il y en a en Irlande, il y en a en Australie. Ça commence à monter dans plusieurs pays. Mais moi, je voudrais dire, plutôt que de donner des leçons de morale aux Français, le chef de l'État, le 24 mai, il a fait un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito. Et il a eu plus de 10 millions d'auditeurs sur YouTube. Samedi, il s'est passé un autre événement. Le groupe IAM, qui a beaucoup d'audience, a fait une vidéo pour dire qu'il ne prendrait pas le pass sanitaire. Et que grosso modo, il appelait ses fans à les suivre dans le rejet du pass sanitaire. Alors moi, je permets de profiter de l'audience de France Info pour dire au chef de l'État, mais c'est maintenant qu'il faut faire, non pas un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito, mais à demander à des youtubeurs, à des influenceurs qui ont de l'impact sur la jeunesse, de se joindre aux paroles du chef de l'État pour dire positivement à tous nos jeunes qui sont sceptiques ou qui hésitent à aller se faire vacciner, de se faire vacciner au plus vite. Parce que une des nouveautés de ce variant, c'est qu'il frappe malheureusement les jeunes. C'est que dans les hôpitaux, on commence à voir arriver des jeunes. Ce n'est pas que les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Il y a maintenant des jeunes qui sont atteints et qui n'ont peut-être pas des formes graves. Pardon, si, malheureusement, il y en a qui ont des formes graves. Ça s'appelle le Covid long. C'est-à-dire des séquelles qu'ils vont avoir pendant des mois, voire des années. Et donc, si ces jeunes ne veulent pas avoir ces problèmes respiratoires pendant des mois et des années, eh ben, il faut qu'ils aillent se faire vacciner. Et ce serait bien que des youtubeurs, que des footballeurs, comme nos stars du football, s'adressent aux jeunes avec Macron ou sans lui pour leur dire vaccinez-vous.
Éric Delannoy.
Ça vous aura pas échappé que McDrive et Carlito ont appelé à la vaccination. Donc, il s'agit pas.
Oui, mais ils l'ont pas fait avec le président Macron pendant
Il
ne
s'agit pas
ensemble.
D'un concours d'anecdotes, il s'agit d'avoir noué une relation par rapport à des influenceurs de jeunes. C'est exactement ce que vous venez de dire qui a été fait. Alors certes, Macron n'a pas été derrière eux à chaque fois, il a noué une relation. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont des youtubeurs et des influenceurs qui sont en faveur et qu'ils le disent à tous leurs jeunes. Donc c'est exactement ce qui s'est passé et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'avaient fait. Et par ailleurs, moi je ne pense pas que de rappeler des principes démocratiques, ce soit de la leçon de morale ou alors ça veut dire qu'on n'est plus capable de rien entendre en fait. Parce qu'à un moment quand même, il faut quand même savoir pouvoir écouter le fait que la liberté individuelle c'est super mais il faut en accepter les conséquences.
Surtout que c'est de la morale pratique en plus.
Et puis en plus c'est pratico-pratique.
Enfin, je veux dire, c'est sa propre vie et la vie des autres.
Non mais c'est ce qui est terrible dans cette histoire de liberté individuelle. Là où c'est inacceptable, c'est que ces gens-là, ils n'assument pas leurs responsabilités. Parce que qu'on puisse être libertarien, puisque le mouvement, c'est ça, en fait, le libertarisme, qui a nui énormément dans les sociétés solidaires. C'est que quand on assume la responsabilité de ça, on ne fait pas appel à la solidarité quand on a un problème. Enfin, ces gens-là, quand ils vont être malades, ça sera les premiers à revendiquer la place aux urgences.
Mais Philippot n'est pas un libertarien.
Philippot est un opportuniste. Je crois que Philippot n'est rien du tout.
C'est l'organisateur de la manifestation de samedi qui a rassemblé
40 000 personnes. Il cherche à exister. Il a trouvé effectivement ce nouveau moyen d'exister parce que finalement, sinon, il n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle. Et puis, il s'appuie quand même sur un discours qui est incroyable. Il a inventé le confinement militant, Philippot. C'est quand même ça qu'il a inventé. Je boycotterai l'intégralité des endroits où on mettra le pass sanitaire. Mais sauf qu'il n'a pas compris que la majorité des Français, l'immense majorité des Français, ne voulait plus du confinement. Qu'il se confine lui avec ses militants, mais qu'il y aille, lui et ses 3000 zozos. Ça sera amusant, mais au moins qu'il laisse la vaccination se faire de plus en plus pour qu'on puisse avoir enfin l'immunité.
Le cap des 40 millions de primo-vaccinés, en tout cas, a été franchi ce lundi. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Ça fait environ 60% de la population, plus 4 millions de vaccinés en 15 jours. C'est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue à exhorter dans un tweet le président qui se trouve donc en Polynésie. Un déplacement qui a été l'occasion pour Emmanuel Macron d'effectuer la première visite d'un président de la République dans l'archipel des Marquises, célébré par Paul Gauguin. Gauguin, Jacques Brel, dont les sépultures se trouvent là-bas, à Tuona, où pour l'occasion, le chef de l'État a reçu en quinto à un spectacle assez rare, une cérémonie traditionnelle de 600 danseurs et musiciens issus des 6 îles marquisiennes et vêtus de tenues végétales. Seul homme en costume au milieu du stade, Emmanuel Macron a été accueilli par des cavaliers en tenue de combat et par des chants, et il a promis son soutien à la candidature des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO après avoir été accueilli. Vous allez l'entendre baptisé d'un nom marquisien par la maire Joëlle Frébeau.
Avant que la cérémonie culturelle ne démarre, et comme l'exige notre tradition du Ha'ainoa, il convient que l'on vous donne un nom marquisien, Monsieur le Président. Nous vous nommons Tehaka Ikitaha'oa, qui signifie le grand chef qui marche et qui ira loin.
Vous avez dit que j'étais ce chef qui irait loin et qui regarde devant. Personne ne va loin s'il n'a les pieds quelque part et s'il sait d'où il vient. Et vous m'avez montré un peu plus ce soir d'où je venais aussi grâce à vous. Et je ne l'oublierai jamais. Alors je vous emporte dans mon cœur. Soyez fiers d'être marquisienne, marquisien. Fiers d'être polynésienne, polynésien. Fiers d'être française et français. Vive les marquises! Vive la Polynésie française! Vive la République! Et vive la France!
Parce que c'est notre projet. Non, je plaisante, mais ça fait un petit peu penser à ce tout premier meeting, en tout cas dans le
meeting de, voilà, du candidat Macron.
Voilà, un des meetings importants, Porte de Versailles, qui avait lancé sa c'est campagne. Vrai. Mais il y avait un petit peu des accents de ça dans son discours, ici, dans le ton. Un tout petit mot, Jannick Halimi, on va revenir là-dessus, sur cette
très,
visite.
Très vite, oui. Bah, écoutez, je pense qu'Emmanuel Macron préfère être là-bas qu'ici, parce que ici, samedi, c'était plutôt la tête de Macron qui n'était pas sur une pique, mais presque quand même. On appelait tout de même à sa démission, donc ça doit lui faire du bien d'aller là-bas. Et puis bon, bah, le grand homme qui voit loin, etc., qui marche, il a voulu quand même rappeler, parce qu'on le traite, et là c'est péjoratif, de président nomade sans racines, sans, en tout cas une partie de la droite le taxe de ça, et c'est une critique très forte. Et là il a quand même voulu rappeler que il avait ses racines, et tout homme digne de ce nom qui voit et qui va loin doit savoir d'où il vient, et c'est toujours une remise à l'heure de la pendule macronienne que cherche à faire le président dans ces moments-là.
Jannick Halimi, Michel Thau, Béric Delannoy sont nos informés ce soir. On revient sur cette visite du chef de l'État en Polynésie après le fil info, 20h50, Emmanuel Langlois.
France Info, les informés. Julien Langlais.
Avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing, et Michel Thau, fondateur du site d'information Opinion Internationale. On évoque cette première visite d'un chef d'État français aux îles Marquises, et donc ce nom marquisien pour le chef de l'État, le grand chef qui marche et qui ira loin. Comment peut-on qualifier cette visite, Michel Thau, importante en tous les cas pour les marquisiennes et les marquisiens qui ont reçu le président de la République?
Je pense qu'Emmanuel Macron ne manque jamais l'occasion de rattacher le destin de la France à son histoire culturelle, artistique et littéraire. Et c'est vrai que les marquises, c'est Jacques Brel, c'est Paul Gauguin, et il ne pouvait pas, lui qui est très attaché à cette dimension livresque, ne pas y aller. Et c'est le premier président de la République qui se rend aux îles Marquises. Alors c'est pas le premier qui se rend en Polynésie,
non,
heureusement. François Hollande y avait été en 2016, Jacques Chirac en 2003. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en fait, ici à Paris, en métropole, on sous-estime l'importance des Outre-mer. La France est une puissance mondiale aussi parce qu'elle est présente sur tous les continents et sur toutes les mers. Que ce soit aux Antilles, à La Réunion et bien entendu en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie. Il n'a pas pu aller en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, parce que ce sont deux territoires Covid-free où il aurait dû observer une quatorzaine de confinements avant de pouvoir se rendre sur place, ce qui n'était pas compatible avec son agenda présidentiel.
Par contre, pardon, il a reçu
une délégation qui, elle, va être contrainte au respect de cette quarantaine à son retour. C'est très important la présence de la France, cette vision indo-océanienne pacifique. Il a d'ailleurs organisé un sommet France-Océanie il y a une semaine à Paris, en visio. Et donc je trouve que cette approche vraiment mondiale, alors là, du coup vraiment multipolaire du chef de l'État, me paraît très importante et correspond à cette idée de la France présente partout dans le monde.
Éric Delannoy.
Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, je suis toujours un peu surpris de savoir que même dans un voyage comme ça, on arrive. J'ai entendu des commentaires sur du Macron bashing, comme si c'était un voyage d'agrément. C'est quand même absolument incroyable. C'est aussi par ailleurs un manque de respect pour toute cette population. Ils sont quand même 300 000, hein, donc c'est pas rien. Je pense que sur cette visite, il y avait quand même plusieurs enjeux très différents. D'abord, un enjeu électoral, faut pas le nier. Ce sont des îles qui ont plutôt voté pour Macron lors des élections, même s'il y a eu un taux d'abstention particulièrement élevé. Il y a un enjeu de lutte contre la pandémie, on l'a vu, hein, moins de 30% de vaccinés dans ces territoires-là. Et donc, si on veut avoir une cohérence nationale sur ce discours, il faut aussi le mettre en avant. Un enjeu de mémoire. Et effectivement, Macron travaille beaucoup sur les problématiques de mémoire. Et là-bas, il y a de la mémoire dans laquelle il y a une responsabilité française, notamment sur les développements du cancer, hein, avec des centres de recherche d'ailleurs assez pointus qui se sont mis en place, mais quand même
à cause des essais nucléaires,
avec des demandes de pardon autour des essais nucléaires, et puis un enjeu géopolitique parce que vous l'avez dit, c'est quand même grâce à eux qu'on a une grande nation maritime, mais aussi c'est le lieu de toutes les tensions actuellement. Je veux dire, la Chine est en revendication permanente sur un certain nombre de territoires, et que donc la présence du chef de l'État pour la première fois pendant une période assez longue, 4 jours à l'autre bout du monde, c'est tout ça qu'il faut réussir à gérer et faire passer du message pour garder la cohésion nationale. C'est très loin d'être un voyage d'agrément.
Et j'ajouterai aussi un enjeu écologique hein, quand même avec le soutien donc à cette inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison notamment de sa très importante biodiversité. Et si le chef de l'État était en Polynésie, c'est évidemment en raison notamment de sa présence à proximité hein, au Japon, à Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des JO sans public, à huis clos. Et pour conclure ces informés, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez de ces premières journées de compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo, au-delà des médailles françaises, 5 pour l'instant, une en or, 2 en argent, 2 en bronze. Yannick Halimi, un mot
Images. C'est d'autant plus valeureux et courageux de la part de nos athlètes, mais de tous les athlètes qui concourent, qu'effectivement le spectacle est triste de par l'absence ou quasi-absence de public en chair et en os, j'allais dire. Donc bravo à tous les athlètes et aux organisateurs aussi, puisqu'apparemment pour le moment il n'y a pas trop de problèmes pour le moment, mais en tout cas bravo aux athlètes.
Ouais, Michel Taube.
Tokyo, c'est le tour de chauffe avant Paris 2024, c'est dans 3 ans, comme disait un des athlètes français qui a été primé, c'est demain matin, ça va arriver très très vite. Moi je regrette, on a vu hier et avant-hier les cyclistes professionnels qui avaient fait le Tour de France il y a une semaine courir pour la médaille olympique. Où étaient nos footballeurs professionnels, nos stars du ballon rond, qui n'ont pas daigné venir défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques? C'est malheureusement une équipe réserve.
Ouais, vous évoquez un espoirs, autre souci. Oui.
Oui, non, mais c'est important. Ouais. J'y tiens parce que justement, quand on voit tous ces athlètes qui se battent pour défendre le maillot français et les couleurs de la France, et que certains professionnels, notamment parce que leur club les retiennent. Oui, mais
ce ne sont pas les joueurs qui ont décidé,
non,
Michel.
Mais c'est fort dommage. C'est fort dommage. Et je regrette cela parce que les Jeux Olympiques, c'est un peu les valeurs universelles de fraternité et de partage. Et je trouve qu'en termes d'exemplarité, il est très important que les plus populaires des athlètes, c'est le cas des basketteurs professionnels qui y sont, c'est le cas des cyclistes, je les ai mentionnés, ça aurait été bien qu'on ait aussi nos footballeurs.
Alors je tiens à préciser, ouais, pas tous les clubs de Ligue 1 ont refusé d'envoyer des joueurs aux Jeux Olympiques, mais une grande majorité. Mais d'ailleurs, ça c'est ne vrai. Les concerne pas tous, c'est important. Il y en a quand même qui ont joué le jeu, mais c'est vrai.
Je n'ai cité aucun nom.
Mais c'est vrai que ce n'est pas la meilleure équipe que l'équipe de France aurait pu envoyer sur place aux Jeux Olympiques. Éric Delannoy.
Moi, je suis un peu triste pour le Japon, parce que c'est quand même eux qui n'ont pas la possibilité d'en faire une grande fête populaire. Et d'ailleurs, à travers ces Jeux-là, on s'aperçoit...
C'est même pas très populaire du tout.
Et en plus, c'est pas très populaire, mais on voit quand même, à travers, de manière très concrète, c'est quoi les enjeux de la vaccination, quand même. Parce qu'on voit quand même en France, que ce soit même dans les championnats d'Europe pour le football, on a retrouvé la ferveur populaire dans les stades. Et ça fait du bien. On n'a pas pu le faire au Japon, parce qu'ils avaient une problématique sanitaire extrêmement extrêmement compliqué à gérer. On s'aperçoit que l'enjeu de la vaccination pour ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner, c'est aussi celui-là, retrouver la ferveur populaire. Et puis, dernier petit clin d'œil, Teddy Riner, j'attends avec impatience sa capacité à rentrer dans l'histoire. J'ai presque envie de dire, je vous recommande tous l'excellent documentaire sur France Télévisions qui laisse une inquiétude forte, hein, qui s'appelle La Quête, sur le fait qu'il a besoin de sa famille pour pouvoir gagner. Et là, sa famille ne sera pas là.
Oui, documentaire dans lequel, d'ailleurs, on apprend qu'il a été blessé. Assez gravement.
Magnifique documentaire.
Ouais, c'est vrai que vous avez raison de le souligner.
Il va gagner.
Éric Delannoy. Michel Taube, fondateur du site Information Opinion Internationale, un mot sur le site, notamment Michel.
Pour saluer nos amis japonais, on publie chaque jour des haïkus. Ce sont des poèmes japonais, c'est extraordinairement beau, c'est très court, c'est trois petites phrases, et je recommande aux auditeurs de France Info de lire les haïkus que nous publions chaque jour à la une d'Opinion Internationale.
Éric Delannoy.
Quand la neige a fondu, où va le blanc ?
Oh,
haïku voilà. Japonais.
Et c'est extraordinairement beau comme...
Alors nous, c'est une autre sorte d'haïku.
Jeannick Alimi, à la une du Parisien.
C'est le casse-tête du pass sanitaire pour les professionnels des loisirs et de la culture.
Merci beaucoup. Jeannick Alimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Éric Delannoy et ses proverbes japonais. Économiste, président fondateur du cabinet Tenzing. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Merci d'avoir été nos informés. Ils reviennent demain, 20h-21h.